France Info.
France Info. Les informés.
En studio, toujours avec nous, Agnès Evren, conseillère de Paris, Les Républicains, Mireille Le Maresquier, journaliste, David Koubi, avocat notamment de Jérôme Kerviel, et Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net. À qui profite l'ouverture nocturne des commerce, la loi Macron étant, on sait, l'ouverture des commerces le dimanche. Elle permet aussi d'ouvrir jusqu'à minuit. Dans certaines zones touristiques internationales, la carte de ces zones a fuité ces derniers jours dans la presse. Elle comporte par exemple à Paris 12 zones, là où Bercy en avait promis seulement 4, seulement entre guillemets. Qui sont les principaux gagnants de ces ouvertures nocturnes? Selon vous, tiens, je vais commencer par Agnès Evren qui connaît bien le dossier.
Je vous remercie. Écoutez, moi je pense que d'abord, il faut le dire sur le principe, c'est une chance économique pour Paris. Je regrette profondément que Madame Hidalgo a toujours fait preuve de frilosité sur ce sujet et a catégoriquement refusé.
Enfin, ça s'est mis en place et notamment par un gouvernement de gauche.
Oui, non, mais c'est Madame Hidalgo qui aurait pu par décret éventuellement choisir des dérogations pour certaines zones. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle est complètement coincée par son alliance avec les communistes à Paris. Et ça nous a fait perdre, malheureusement, énormément de temps. Elle n'a pas eu le choix, là, parce que M. Macron, dans le cadre du projet de loi, a donc décidé de mettre en place ce zonage. Et honnêtement, je m'en réjouis, parce que je pense, pour répondre à votre question, que ça profite d'abord et avant tout aux Parisiens et évidemment aux touristes.
Donc la question des touristes, c'est un leurre, un écran de fumée?
Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. On est dans une métropole parisienne qui est quand même extrêmement importante, qui doit faire face à toutes les autres métropoles européennes. C'est aussi une question d'attractivité. Et Paris, qui est une région capitale, doit faire face à toute cette concurrence et donc être au rendez-vous également de la création d'emplois. Puisque, on le sait, je peux vous donner un exemple pour le boulevard Haussmann, l'ouverture des magasins le dimanche créerait 2000 emplois. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de se refuser le luxe de ce nombre de créations d'emplois?
Certains opposants estiment qu'il y en a trop et critiquent la sélection de ces zones, notamment pas très loin de la maison de la radio, hein, Beaugrenelle, de l'autre côté de la Seine, qui n'est pas considérée par les opposants comme une véritable zone touristique internationale. Favoriserait certains groupes, et notamment la FNAC qui est beaucoup mise en avant, par les opposants à ce projet.
On a beaucoup travaillé avec Philippe Goujon, qui est le maire du 15e, sur le sujet, notamment l'ouverture du commerce Centre Beaugrenelle, qui est l'un des plus grands centres européens. Je sais que le patron du Centre Beaugrenelle a été consulté. Pour l'instant, il n'a pas encore donné de position sur le sujet. Mais en effet, nous sommes extrêmement attentifs, puisque je suis moi-même élu du 15e arrondissement.
Benjamin Sontag, est-ce que vous, cette ouverture nocturne...
Bon, déjà, petit rappel, la loi Macron n'a pas été votée. La loi Macron est un truc antidémocratique au possible. Ils sont passés en 49-3 deux fois. Je trouve déjà que
ça,
en soi, ça pose un problème.
Non, mais c'est un
des sujets de la loi Macron.
Absolument.
Cette loi, elle a pas mal détricoté un peu notre droit social de part et d'autre.
Sur le principe d'une ouverture nocturne, en tout cas jusqu'à minuit,
d'un certain nombre de commerces, je suis plutôt pour.
En
tant que consommateur,
vous êtes prêt à aller faire vos courses?
Je vis beaucoup à Berlin aussi, et c'est une ville qui dort pas. Je suis passé 2-3 fois à New York aussi, c'est aussi une ville qui dort pas. Et on voit à quel point ça crée quelque chose qui, moi, me plaît bien. Et par contre, c'est vrai que je suis un peu favorisé, je suis dans les 10%, je suis sur une proposition au chômage négatif, je vais avoir du mal à faire le syndicaliste en face qui va vous dire « Oui, mais est-ce qu'on va, dans un monde de chômage endémique, réussir à trouver la négociation entre salariés et patronat sur ces commerces ?» pour que ça se fasse dans de bonnes conditions.
On va rappeler que normalement, la loi dit que c'est sur la base du volontariat que peuvent ouvrir ces enseignes, que les salariés qui travailleront en soirée ou le dimanche doivent être volontaires.
Et mieux payés.
Oui, Mireille Lemaresquier, est-ce que la France était en retard en termes de mentalité sur ce dossier-là, selon vous?
Tout à fait, moi je pense. Vous savez, on est quand même le pays qui est au premier rang du tourisme, classé par l'Organisation mondiale du tourisme.
30 millions de touristes
chaque année. Paris donc est la ville qui reçoit le plus de touristes. Il faut quand même être ouvert le dimanche, être ouvert, je veux dire le week-end, le dimanche, être ouvert le soir. Tout le monde y gagne, et les Parisiens, et l'économie française. Alors maintenant, moi je suis d'accord avec mon collègue, il faut être extrêmement vigilant sur les acquis sociaux. Voilà.
Parce que ça pose peut-être aussi la question de la place du repos dans notre société. David Koubi, vous, l'avocat, est-ce que vous défendez, est-ce que vous plaidez la cause de l'ouverture dominicale et de l'ouverture nocturne des magasins ces zones-là.
Je ne plaide pas cette cause parce que personne m'a mandaté pour le faire. Donc
je vous donne simplement
mon avis. Moi, en tant que consommateur, je suis ravi, vivant parfois le jour et vivant parfois la nuit, de pouvoir faire mes courses où je le souhaite et quand je le souhaite. Donc, je trouve que ça va vers plus de liberté. Paris est une ville touristique. Ces zones-là, alors que ce soit 4 ou 12 zones, je crois que ça ne nous change pas grand-chose et que ça sera un épiphénomène dans l'histoire. La seule chose qui me préoccuperait, ça serait que soit imposé à des salariés l'obligation de travailler le soir alors qu'eux ne le souhaitent pas. Alors la loi prévoit, semble-t-il, et vous le rappeliez, la concertation.
Est-ce que les salariés auront une réelle marge de manœuvre, la
jurisprudence le dira. Il y aura des premiers dossiers qui arriveront après la promulgation et la mise en application de la loi. Mais sur le papier, que des syndicats soient en train de s'agiter en disant non, on ne le souhaite pas, c'est bien le travail des syndicats. Puisque le travail des syndicats, c'est quand même pas de protéger les salariés. Ça, on l'a tous compris. Donc, c'est de s'agiter quand il y a un changement. Donc, les syndicats ne le souhaitent pas pour le moment. La chose semble acquise. Elle semble passer. On va vivre avec. Et il faudra qu'on soit collectivement vigilant à ce que, on ne soit pas dans des situations où il sera imposé à des salariés de travailler le soir alors qu'eux ne le souhaitent pas. Mais qu'on puisse consommer mieux, plus librement, aux heures qui nous conviennent le plus, c'est pas inepte. Après tout, on travaille tous les heures où il fait jour, a priori. Donc, si on veut aller faire nos courses la nuit, c'est plutôt pas mal.
Est-ce que c'est aussi un premier pas vers de nouvelles ouvertures? Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure et pas uniquement dans les zones touristiques? Mireille Lemarescier.
Alors ça, je ne sais pas. Non, mais ce que je sais, c'est que ça va créer des emplois. Mmh. Et vous avez des étudiants qui ont besoin de travailler, de faire. Ça va créer des emplois. Alors, les syndicats, leur travail, ça va être de vérifier ce qui se passe sur le terrain.
C'est ça.
Voilà, au lieu de dire non tout de suite si ça crée des emplois, mais vérifier comment c'est appliqué.
Et comment on fait aussi pour essayer de décentraliser un peu ce pays? Connaissant bien l'Allemagne, je vois à quel point toutes les grandes villes d'Allemagne ont toutes une importance géopolitique majeure. En France, on a Paris et le reste. Où sont Lyon, Marseille, Nantes,
Deauville est concerné, Nice est concerné, Cannes.
Voilà, ça s'appelle la province en France.
Mais non, mais c'est ça. Enfin, je trouve un peu triste qu'on se contente de Paris.
Agnès Evren, est-ce qu'il faut généraliser cette mesure-là?
Moi, je pense que sur ce sujet, il ne faut pas de dogmatisme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois laisser la liberté au consommateur de pouvoir faire ses courses quand il le souhaite et laisser aux commerçants la possibilité d'ouvrir son commerce le dimanche. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit basé sur la liberté. J'entendais tout à l'heure une boulangère de Montmartre qui disait tout simplement, quand on nous dit que ça va attaquer, pénaliser les commerces de proximité, c'est archi faux, pour une simple et bonne raison que plus les commerces sont ouverts et plus on en profite et plus on travaille nous aussi. Donc je pense qu'à tout point de vue c'est une bonne chose. Maintenant la généraliser à tout Paris, ça c'est pas... faut voir. Je pense que quand il est 21h le soir et qu'on est sur la plus grande avenue du monde, qui est les Champs-Élysées, que les touristes sont là et que malheureusement...
L'avenue des Champs-Élysées qui fait partie des fameuses zones et qui donc sera concernée par ces ouvertures.
Est-ce que c'est normal?
Mais est-ce qu'il faut le faire ailleurs, dans des quartiers qui sont moins animés?
Dans tous les quartiers
quand vous regardez le plan, c'est tous les quartiers animés, à part Beaugrenelle qui n'est pas très animé.
Il n'y a pas Bastille. Enfin bon.
Non, mais ce sont les zones touristiques, de toute façon, qui ont été ciblées, évidemment. Il faut que ça ait du sens aussi sur le plan économique. Hors secteur alimentaire, bien entendu. Hein, là, on ne parle pas...
C'est les zones où il y a des commerces. Donc, c'est vrai que Bastille, il n'y a pas tellement de commerces. Il y a beaucoup de cafés, d'opéras.
Est-ce que les touristes étrangers sont intéressés par les petites enseignes, les petits commerces, qui craignent, eux, que les grandes enseignes se taillent la plus grande part du gâteau?
C'est vrai que c'est un problème typiquement français aussi, l'omniprésence de la grande distribution, son omniprésence y compris dans le lobbying politique. On a 3 ou 4 grosses enseignes
Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui il y a des opérateurs en fait qui organisent des packages pour des touristes qui partent le samedi faire leur shopping à Londres et qui reviennent dimanche.
Mais qui partent faire du shopping
à Londres parce que c'est ouvert, parce que malheureusement
dans des enseignes qui sont connues internationalement. Quid de la petite boutique de la boulangerie que vous citiez tout à l'heure? Est-ce que ces boutiques-là en profiteront aussi?
Je pense qu'ils en profiteront.
C'est ce que disait la boulangère de Montmartre encore une fois.
La boulangère est à Montmartre. À Montmartre, il y a tous les touristes.
Et elle disait, à partir du moment où les commerces sont ouverts, nous on en profite parce qu'on travaille aussi.
Oui, alors ce qui ne faudrait pas, si vous me permettez,
David,
c'est que ces artisans gagnent la même chose en travaillant plus. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des bilans qui sont négatifs. Parce que, comme on fait croire à vos éditeurs qu'on est dans une crise économique, il faudrait pas que ça devienne une équation au terme de laquelle on va rester ouvert le soir pour arriver à payer les charges et à rester à l'équilibre et à survivre. Voilà, ça c'est une préoccupation, je crois.
Il s'est écoulé 6 ans depuis la loi sur le travail du dimanche qui avait été mise en place par l'UMP. On a eu d'ailleurs tout à l'heure au téléphone le député qui a mis en place cette loi, en l'occurrence Richard Mallier. Est-ce que la France a tardé sur ce dossier? Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui en France à faire évoluer les mentalités des consommateurs, de tous les acteurs du monde économique, selon vous? Est-ce que c'est symptomatique ce dossier, David Koubi?
Ce dont on peut se souvenir au terme des débats parlementaires, c'est que les mêmes syndicats et les mêmes opposants politiques crier au loup en disant que si les commerces ouvraient le dimanche, il y aurait une sorte de déséquilibre financier qui profiterait aux grandes enseignes et qui, etc., etc. Vous le rappeliez, on est 6 ans plus tard et on n'observe pas ça. On vit pas moins mal, on vit pas mieux non plus, cela dit, mais enfin, pas de ce fait-là en tout cas.
Honnêtement, je pense qu'il faudrait inviter les gens qui ne soient pas dans les 10%, parce que je pense que là, on est 4 à être dans les 10% les mieux payés de ce pays, ceux qui s'en sortent bien, qui sont tranquilles, qui ont un boulot. Il faudrait inviter les gens qui ne sont pas dedans et qui galèrent.
C'est une évolution des modes de vie aussi. On s'adapte à une évolution des rythmes de vie et des modes de vie de chacun.
Ça, c'est vrai.
Donc, on s'ajuste, tout simplement. Donc, moi, je pense que ça relève de l'évidence.
Merci beaucoup, Agnès Evren. Ce sera le mot de la fin sur ce débat. On se retrouve dans une minute avec vous, les informés. D'abord, un point sur l'actualité ce soir avec Agathe Mahué.
France Info. France Info. Les informés.
4 informés en studio avec moi ce soir. Mireille Lemaresquier, journaliste. Benjamin Zonda, cofondateur de La Quadrature du Net, créateur par ailleurs de logiciels libres. Agnès Evren, conseillère Les Républicains de Paris. Et David Koubi, avocat que vous avez peut-être entendu sur notre antenne au moment où il défendait Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale. Est-ce que le regard du cinéma français a changé sur les homosexuels, ou est-ce que le cinéma peut-être a changé notre regard? On va évoquer ces questions à l'occasion de la sortie de La Belle Saison. C'est un film de Catherine Corsini, film en partenariat avec France Info, qui sort aujourd'hui. Il raconte l'histoire d'amour entre deux femmes, Cécile de France et Izia Higelin. Hommage également au mouvement féministe des années 70. Une histoire d'amour entre deux femmes, ça rappelle un petit peu La Vie d'Adèle. On a eu plus récemment L'Inconnu du Lac. Est-ce que le cinéma français change notre regard sur l'homosexualité? Qui veut se lancer?
Oh ben je veux bien.
Benjamin Sontag.
Je pense que oui, mais en fait je pense que c'est pas tant le cinéma, c'est la société dans son ensemble qui évolue et qui admet en fait aujourd'hui ça y est, c'est fait. Je pense qu'on va, c'est pas général, mais on va assez vite, je pense, et c'est bien, faire une société où on comprend un peu mieux la complexité du genre. Où on n'est pas homosexuel ou hétérosexuel, et que c'est pas grave si on est homosexuel, c'est plus un délit, c'est plus un problème, et même dans certaines familles, c'est plus un problème.
Y compris à l'heure de la manif pour tous.
Moi, ils étaient pas très nombreux, hein. Ils étaient pas très nombreux. Ils étaient très âgés. C'est le papy boom. On attend le papy crash et ce sera terminé. Honnêtement, moi, j'en suis là. Voilà, c'est très, 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 très pragmatique.
Agnès Evren, est-ce que vous rejoignez l'analyse de Benjamin Zandak sur ce point?
Oui, je pense qu'il y a une évolution des consciences et la manif pour tous a aidé justement à cette prise de conscience. Et qu'au cinéma, on traite l'homosexualité sur le même plan que l'hétérosexualité.
La manif pour tous a aidé.
Ça me semble normal.
Le mariage pour tous.
Oui. Absolument. Merci d'avoir. Le mariage pour tous a aidé à faire évoluer les consciences. Voilà. Et qu'au cinéma, on traite sur le même plan l'homosexualité et l'hétérosexualité, ça me semble normal.
Moi aussi.
Oui, Mireille. Oui, Mireille Le Maresquier, ça vous paraît logique?
Oui. Mais oui, parce que ça reflète notre société qui est devenue une société plus ouverte. Voilà.
Et ça se traduit donc notamment dans ce film où les personnages principaux sont deux femmes, un couple homosexuel. Est-ce que la place et le rôle attribué, accordé aux homosexuels dans les films a changé selon vous ces dernières années? Est-ce que vous l'avez observé? Vous allez au ciné un petit peu, David Kobi?
Quand j'ai le temps. Qu'est-ce qui vous fait dire que je n'y vais pas? Oui, j'y vais. Oui, oui.
Je vous voyais vous approcher du micro.
Oui,
allez-y.
Oui, j'y vais. Je ne crois pas que le cinéma ait changé notre point de vue sur l'homosexualité. Je crois qu'il est en train de changer le sien, surtout de point de vue. Et c'est assez normal puisque ça a été dans l'actualité depuis l'avènement du gouvernement. Depuis la présidentielle, l'élection de François Hollande avec le mariage pour tous, et ça a été un débat. Vous vous souvenez, toute l'information mondiale s'est arrêtée en France pendant toute cette année où on a débattu du mariage pour tous. Maintenant, c'est fait. On est beaucoup à dire que c'est une bonne chose parce que homosexuels et hétérosexuels sont de plus en plus traités sur un pied de.
Il faut se rappeler que ça a provoqué beaucoup
d'égalité.
Des débats assez enflammés.
Oui, mais vous savez, au Moyen-Âge, ça s'appelait une saignée, ce qui s'est passé là. La France avait besoin de déverser sa bile et une dernière fois, peut-être, d'expliquer en quoi l'homosexualité, c'était mal, etc. Et il faut se rappeler que ça fait à peine 200 ans que c'est dépénalisé en France. Ça s'appelait le crime de sodomie avant. Ça a été dépénalisé. On est le premier pays au monde, sauf erreur de ma part, à avoir dépénalisé l'homosexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sanctions pénales. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu des personnes qui ont été exécutées, y compris à Paris, pour ce crime d'homosexualité, de sodomie, comme on disait à l'époque. Et donc le cinéma va s'en emparer parce que c'est un fait de société et on va nous rabattre un peu les oreilles avec ça pendant 4-5 films et puis ensuite tout redeviendra à la normale et puis il y aura des homosexuels dans les films quand les scénarios le commanderont.
On le voit aussi dans les séries, notamment dans les séries américaines qui sont particulièrement particulièrement subversive, pas forcément sur ce thème-là. Vous évoquiez tout à l'heure la sodomie et donc l'homosexualité masculine.
Non, j'évoquais le crime de sodomie. C'est vous qui évoquez la sodomie.
C'était moins le... On a le sentiment quand même qu'il y a eu que le cinéma et que la société, de manière générale, a mis du temps à mettre en avant l'homosexualité féminine, comme ça peut être le cas dans La vie d'Adèle. Et dans ce film-là, comment vous expliquez ça?
La domination patriarcale, historique, je vous explique ça autrement. Je trouve ce sujet intéressant, en opposition avec celui de tout à l'heure sur le Viagra féminin, où on parlait de la médicalisation du psychisme et tout, et je trouve que l'évolution des mœurs sur l'homosexualité et le genre, ça me semble une belle opposition à cette médicalisation, justement. C'est que d'un côté, on a une espèce de normalisation où il faut absolument être normal, où il faut absolument être dans les moyennes, dans les machins, dans les trucs, et pas énervé, et pas dépressif, etc. Et d'un autre côté, on peut avoir un genre qui est différent du genre sexuel, du genre des gens qui nous attirent, du genre de la façon dont on s'habille. Et cette complexité de l'être humain, on finit par en accuser réception, on se dire, finalement, c'est ce qu'on est.
Oui, la liberté, quoi.
C'est la liberté, voilà. Et c'est plus qu'une liberté, c'est la liberté, elle va plus provoquer chez l'autre une haine, a priori, elle va plus provoquer le fait de le vouloir le rendre illégal et de voir de taper sur l'autre parce qu'il est différent.
Est-ce que c'est réellement l'avis de la majorité de la population française? Vous évoquiez tout à l'heure sur le débat autour du travail dominical.
En 81, la majorité
dominical.
Française était plutôt pour le prolongement de la peine de mort et on l'a quand même aboli. Une société évolue aussi un peu contre sa majorité et c'est plutôt une bonne chose.
Et ça se traduit donc entre autres sur grand écran. On se rejoint dans une minute, les informés de France Info reviennent juste après l'actualité. L'actualité ce soir, c'est avec Agathe Mahué.
France Info. France Info. Les informés.
Pour la dernière ligne droite de ces informés, toujours en compagnie d'Agnès Evren, conseillère de Paris sous la bannière Les Républicains, Mireille Lemaresquier, journaliste qu'on a bien connue sur France Info, ancienne chef du service.
Je ne suis pas un dinosaure quand même.
Quand même pas, non, ça monte un peu. Vous avez quitté il y a peu de temps. Vous étiez chef du service Monde à France Info. David Kobi, avocat, défenseur de Jérôme Kerviel, et Benjamin Zontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Non, je suis l'avocat de Jérôme Kerviel et elle était à France Info.
Voilà, écoutez, il faut bien présenter les gens, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas.
Qui prendrait l'émission en cours.
Exactement, on va poursuivre dans la bonne humeur, comme c'est le cas depuis tout à l'heure, avec vous sur la question de l'homosexualité dans la société française, à l'occasion de la sortie de ce film de Catherine Corsini, où le couple phare est un couple homosexuel, deux femmes qui vivent une grande histoire d'amour dans les années 70. Mireille Lemaresquier, vous qui travaillez sur l'actualité internationale, l'homosexualité en France, vous disiez tous, c'est accepté, ça y est, c'est entré dans les mœurs, on a changé notre regard. C'est pas le cas partout dans le monde.
Oui, mais en Europe, c'est le cas en tout cas. En Europe, c'est le cas. Moi, j'ai été en Espagne.
Pas forcément en Ukraine.
Alors là, en Ukraine, ils ont un autre problème hein, aujourd'hui. C'est pas l'homosexualité, à mon avis.
C'est les Russes.
Non. Non, non, mais je pense que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans à l'occasion de la sortie de ce film, en fait, il n'y a pas de débat. Ça provoque pas de polémique. Il y a eu une petite polémique
quand la distribution de ce film à l'étranger peut faire changer le regard de certaines populations dans le monde sur l'homosexualité.
Bah, il faudrait le diffuser en Turquie, peut-être. Voilà. En Turquie, en Russie aussi. Les pays où on réprime.
L'homosexualité. Où l'homosexualité est toujours réprimée. On l'a vu notamment avec la Gay Pride qui a été interdite en Ukraine. Agnès Evren, vous qui êtes conseillère de Paris, on évoquait tout à l'heure le rôle de Paris sur dans le monde en termes d'afflux touristique. Est-ce que, quand on est élu comme ça, est-ce qu'on a aussi à défendre ce genre de valeurs ? Est-ce qu'une ville peut représenter ?
C'est des convictions qui sont très très personnelles. Voilà, on était très très divisés sur le mariage pour tous chez les Républicains. Moi, j'avais une opinion divergente. Je pars du principe que l'intimité sexuelle des uns ne regarde personne et que, en effet, la sexualité, c'est encore une liberté. Donc, mais on n'est pas tous homogènes chez les Républicains.
Vous n'avez pas peur de payer électoralement ce choix personnel ? Cette opinion
politique ?
C'est
une conviction personnelle.
Cette conviction, oui.
Voilà, je n'ai pas à m'en excuser. Voilà.
Je pense qu'au niveau politique, tout le monde a compris que c'était une opinion personnelle. Ça n'a pas fait vraiment de débat. Ça n'a pas créé la scission dans votre
d'ailleurs,
parti.
D'ailleurs, ce n'est pas tellement le mariage en soi. C'était plus la PMA et la GPA qui posaient problème. Le mariage, moi j'ai plein d'amis qui étaient contre la PMA et la GPA, mais qui étaient parfaitement d'accord pour soutenir le mariage pour tous. Mais encore une fois, ce sont des convictions très très personnelles. Donc là, il ne s'agit pas de venir avec des éléments de langage ou des slides et de dire les Républicains pensent que c'est très intime.
Et quand la Manif pour tous propose de revenir en arrière, demande l'abrogation...
Sur la rétroactivité, alors là, il y en a très très peu chez les Républicains qui soutiennent ça quand même.
Personne n'y croit.
C'est impossible, on ne va pas démarier des gens. Enfin...
Julien, je pensais à une chose, vous dites qu'on est quand même très optimiste, moi je vais quand même mettre un petit bémol. Aujourd'hui, pour un jeune ou une jeune qui est né ou qui grandit dans notre société en France, se déclarer ou se découvrir ou avoir un genre un peu complexe ou se déclarer homosexuel ou se découvrir homosexuel, faire son coming out, ça reste difficile.
Bien sûr.
Donc je pense que les structures qui leur permettent de se comprendre, de se trouver de l'aide, de découvrir leur communauté pour avoir du soutien restent importantes. Et donc faut pas les oublier. Voilà, c'est faut pas s'imaginer que le débat est derrière nous, loin de là.
Et ce genre de film peut aider justement,
je pense,
dans ces situations-là.
Je pense, oui.
Est-ce que vous allez voir ? Ça sera le monde
d'avant. Je suis abonné.
Avec une grande curiosité, bien sûr.
Voilà, donc ça s'appelle La Belle Saison, signé Catherine Corsini, film en partenariat avec France Info. Merci à nos informés du soir. Agnès Evren, conseillère Les Républicains de Paris. Mireille Lemaresquier, journaliste, éternelle journaliste de France Info. David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel et maître David Koubi et Benjamin Zontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Merci d'avoir participé
merci à vous
à cette émission.